J'ai jamais été à la campagne.
Oh, bah, enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
CO2, mon amour.
Ça se complique.
Non, regarde ça. Ça, c'est une chenille de papillon lune, tu vois?
Ce truc horrible, un papillon.
Ah oui.
Denis Chessoux.
Quelle marque?
Comment ça, quelle marque?
Ce sera quoi comme marque, votre papillon?
Ah, le... Je sais pas.
Sur France Inter.
Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein?
Un extrait du film Le Papillon, et ça c'est vraiment la promesse de ce haut de mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir avec aujourd'hui Elisabeth Collet à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestudgia qui réalise l'émission. Alors durant 5 petites semaines, moi je suis un poil contraint de ne pas être en direct et de ne pas coller à l'actualité dans ces éditos semi-grotesques. Alors je vais vous livrer quelques séances de rattrapage de CO2 mon amour et je vous raconte ma vie une minute qui n'est pas très passionnante. Il y a 27 ans, de retour de reportage, une voiture contrariée me fit une jolie petite queue de poisson en voulant vérifier de près la couleur de mon deux-roues. Bien, ce qui, carrosserie contre vêtements, me permit de goûter durant 4 mois et demi au doux sœur de l'hôpital. Et je ne remercierai jamais assez le boulot de réparation patiente de l'équipe orthopédique d'Henri Mondor de Créteil et celle de Saint-Maurice en rééducation, sans oublier ma famille. Et donc, comme on ne sait jamais quoi m'offrir à Noël, ah bah ouais, moi je suis comme ça comme gars, et j'ai toujours veillé en plus à ne pas encombrer les poubelles pour rien, et bah je me suis dit, tiens, cette année... Pourquoi pas une jolie prothèse de hanche? Alors ça, c'est un cadeau original. Hein. Ça fait toujours plaisir, une prothèse de hanche. Posée en 1h15, suffit d'avoir une scie, une perceuse et visseuse, un peu de ciment. Et en plus, il n'y a pas d'emballage. Hein. Rarement de retour si la couleur ne vous plaît pas. Et là, en l'occurrence, c'est un produit franco-britannique. Comme quoi, faut pas être rancunier avec les Anglais. C'est donc quasiment du circuit court. Et en plus, c'est très durable. Eh ben oui, 20 à 25 ans. Hein. Pas d'obsolescence programmée. Enfin, si. L'être humain est une obsolescence programmée à lui tout seul, c'est assez clair. Donc, merci la médecine, la moins invasive possible. Et à l'heure qu'il est, bah, j'écoute la radio, comme vous, sans galoper comme un lapin de pré-Noël dans les magasins. Cela va me permettre de réfléchir à la suite, à la vie, à cette terre, à ces mers que l'humain respecte si bien. Alors je ferai tout cela sous forme de thèse, antithèse, prothèse. Et je vous ferai part du résultat fin janvier, surtout en pondant un livre qui reprendra les chroniques, les sketchs, les éditos de CO2 Mon Amour et de nos balades partout en France. Alors Noël, bah justement, parlons-en, patronyme assez fréquent en Lorraine. Victor, c'est le prénom, Noël, c'est le nom. Victor Noël, il a 16 ans, il vit en Moselle et il a une belle vocation en faveur du vivant. On va donc retrouver ce jeune. Mais auparavant, on va accueillir le docteur Laurent Chevalier, nutritionniste et botaniste. Alors bonjour à vous Laurent Chevalier et parlez-nous s'il vous plaît de l'alimentation qui renforce nos défenses immunitaires. Dieu sait si on en a besoin même au-delà du Covid.
Bonjour Denis. Il faut pas manquer, par exemple, et ça tout le monde le sait, de vitamine C. On a besoin de 110 mg de vitamine C par jour, qui correspond à peu près à 3 fruits et un petit peu de crudité. Il faut pas manquer non plus de vitamine B9, c'est ce qu'on appelle l'acide folique. Où on va trouver cet acide folique? Ben, tout simplement dans des oléagineux comme les noix, mais également dans des légumes à feuilles vertes, comme par exemple les épinards. Il est nécessaire aussi d'avoir, par exemple, d'autres éléments comme le zinc. On va le trouver pas dans certains aliments comme l'huître, qui en est extrêmement riche, mais bien entendu, on va pas consommer des huîtres tous les jours.
On les a pas sous la main.
Donc, tout simplement, on va prendre, eh bien, du pain. Figurez-vous que du pain au levain contient un petit peu de zinc. On en trouve aussi un petit peu dans la viande. Et, notamment, on trouve aussi du fer, dit du fer héminique, c'est-à-dire du fer qui est bien assimilé. On a besoin d'avoir un peu de fer. Alors, je dis pas qu'il faut se gaver, bien entendu, mais on a besoin d'avoir un peu de fer qui est bien assimilé. Ce fameux fer héminique que l'on trouve dans la viande et dans le poisson.
Les anticorps que l'on fabrique, Laurent Chevalier, bon, moi j'ai vu qu'effectivement, ils étaient fabriqués à base de protéines.
Alors, ces protéines, c'est un assemblage d'acides aminés. C'est les briques. Et il y a une partie qui est fabriquée par l'organisme et une partie qu'on doit apporter par l'alimentation. Or, il se trouve qu'on a un acide aminé bien particulier qui s'appelle l'arginine qui est dit semi-essentiel, c'est-à-dire qu'on en fabrique un peu, mais parfois on n'en a pas suffisamment. Or, cette arginine, elle favorise la prolifération des défenses immunitaires. L'aliment qui contient le plus d'arginine, c'est l'œuf. Et ensuite, ce qu'on peut prendre, c'est les légumes secs, notamment les lentilles, les petits pois, sont aussi une source très intéressante d'arginine.
Alors parlons, parce que maintenant on connaît le microbiote. On parle de notre deuxième cerveau, donc au sein de l'intestin. On rappelle que le microbiote, ce sont donc les bonnes bactéries du côlon.
Absolument.
Les bactéries naturelles.
C'est les bactéries que l'on a au sein du côlon et on doit avoir un bon équilibre. Et dès que le microbiote est déséquilibré, eh bien on peut avoir tout simplement une baisse des défenses immunitaires. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et pour ce faire, on va utiliser des microbiotes naturels, c'est-à-dire qu'on va réensemencer de façon régulière les bonnes bactéries du côlon avec des micro-organismes. Et où on va trouver ces microbiotes naturels? Eh bien, dans le pain au levain, dans les yaourts, qu'on va choisir, tout ça bien sûr des produits bio, la croûte du fromage, le jambon de pays, pour nos amis alsaciens qui nous écoutent, eh bien la choucroute aussi. Et puis il y a quelque chose que l'on peut faire, c'est tout simplement prendre du kéfir de fruits. Donc soit on le fabrique soi-même, soit on en trouve maintenant dans le commerce très facilement. Et ce kéfir de fruits permet d'équilibrer cette flore digestive, ce qui est tout à fait important.
Un petit mot quand même, Laurent, sur cette merveilleuse bouffe alimentaire, l'alimentation industrielle.
Je crois qu'il faut faire très attention à une certaine forme d'alimentation industrielle, dont la caractéristique, c'est justement d'être pauvre en micronutriments, pauvre en fibres, de contenir parfois beaucoup d'additifs, donc de gras, c'est ce qu'on explique régulièrement en consultation. On a une alimentation la plus brute possible, on va cuisiner, bien entendu, et on fait avec du frais ou avec des produits surgelés, mais on fait très attention à une certaine forme d'alimentation industrielle.
Voilà, donc ça sera le mot de la fin, de grâce, mais pas de graisse.
Exactement.
Voilà. Merci Charles-Laurent Chevalier, à très bientôt.
À bientôt Denis.
Mon petit écosystème à moi, donc qui reviendra dans CO2, mon amour. Dans quelques instants, nous partons en Moselle à la découverte de Victor Noël. Et là, eh ben, mais non, c'est pas staphylocoque, c'est un chanteur, Julien Doré, bah oui.
Juste un peu douter, je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer, jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si les bons qu'a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la.
Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Et ben justement, nous allons essayer de lui faire de l'ostéopathie, et en particulier ce jeune garçon, Victor Noël.
voilà, ici le jardin, donc on a laissé un peu cette partie du jardin un peu en libre évolution, sans trop toucher à la végétation. Là, vous voyez, le bourdon qui est en train de butiner sur les ronciers. Ouais, ici, vous serez venu ici il y a peut-être 10 ans, même moins. C'était une pelouse toute tendue. Il n'y avait rien de trop bien observé en fait. Finalement, je trouve ça beaucoup plus esthétique, même quelque chose qui pique avec des orties, des ronces. Au moins, il y a des choses à voir, quoi. C'est pas comme une pelouse presque minérale. Voilà, dedans, vous pouvez faire un inventaire. Il y en a des espèces là-dedans. Pour moi, ce jardin-là, en quelque sorte, il m'appartient, parce que j'y vis, mais il appartient aussi à ce bourdon qu'il y avait tout à l'heure qui butinait, voilà, à ces orties, à ce cerisier qui est mort mais qu'on laisse. Si vous regardez, des fois il y a des insectes xylophages, on les voit dedans, le pic vert de temps en temps qui vient taper. Donc pour moi, ce jardin leur appartient aussi, donc je leur laisse une grande place.
Direction la Moselle. Nous sommes au nord de Metz. Nous sommes à Rombas, à côté d'Agondange et de la commune de Platigny. Si vous aimez le foot, Joueff n'est pas loin du tout. Le nord et l'est ont fourni donc le charbon. Alors ici, donc dans cet est, c'était l'acier. Et après la déprise industrielle, la nature s'est de nouveau un peu étalée. Et début juillet, donc j'ai rencontré Victor, 15 ans, donc Victor Noël, jeune garçon à la lucidité et au désir stimulant. Vous allez voir. Enfin, vous allez entendre. Il sort un livre aux éditions Delachaux et Niestlé qui s'appelle « Je rêve d'un monde ». Alors c'est un plaidoyer sur l'urgence, une réaction des politiques, mais aussi une invitation à agir, parce que gueuler c'est une chose, mais agir c'en est une autre. Chacun à notre échelle, pour enrayer donc ce processus, on le sait, assez destructeur. Donc je vous offre un autre herbier de paysage dans le carnet de nature de CO2 Mon Amour, aujourd'hui en Moselle avec Victor Noël.
Une petite crotte de... Oups, vous avez marché en plein dedans d'ailleurs.
C'est très bien.
Ah, voilà.
Pour le bonheur, comme on dit.
Voilà, ça rend.
J'ai pas vu sur quoi, c'était quoi?
Ça devait être une crotte de fuine.
Alors c'est incroyable, évidemment, que tu as tout à fait cette place dans cette émission, parce que cette émission, depuis une trentaine d'années, c'est d'essayer de relier l'homme donc à la nature. Et toi-même, c'est pas la peine de te dire que tu fais partie de cette nature, tu le sais, mais tu l'as su comment, ça?
Je l'ai su progressivement. C'est venu en fait en m'intéressant, en observant un peu les fourmis, etc. Puis après, c'est les oiseaux qui m'ont intéressé. Et puis du coup, en m'intéressant aux oiseaux, j'ai eu envie de les connaître. Du coup, j'ai adhéré à des associations de protection de la nature. Mais au début, si j'ai adhéré, c'était vraiment pour essayer d'apprendre, pour rencontrer des gens qui m'apprendraient des choses et tout. Mais finalement, c'est en faisant ces rencontres-là que je me suis rendu compte, tiens, ce vivant que j'aime bien, il y a un problème. On est en train quand même de réduire cette diversité. Et du coup, c'est à ce moment-là, en commençant à essayer d'apprendre le vivant, d'essayer de comprendre comment l'impacter, que je me suis rendu compte que finalement, on était partie intégrante de ce vivant-là, qu'on était nous-mêmes ce vivant et qu'on vivait grâce à ce vivant. Finalement, que les humains ne sont pas aussi détachés de la nature que l'on pense.
Alors là, écoutez, parce que là, c'est la fête au bourdon. Ça bouge.
Il y a
les
fauvettes qui viennent un peu grignoter les murs.
Ouais, bien sûr. Alors, oui, j'espère qu'elles t'en laisseront quand même, parce qu'elles ne sont pas encore mûres.
Elles ne sont pas encore mûres, mais ça va pas tarder.
Oui, ça y est, noircie, ça y est. Et tu disais?
Un petit cirf qui vient de partir, voilà. Les cirfs, souvent on les confond avec les guêpes, mais ça pique pas du tout.
Non, mais c'est des pollinisateurs quand même.
Oui, c'est des pollinisateurs, c'est des diptères, je crois. Oui, c'est des mouches. Du coup, l'arbre, il est en train de se fendre. Et du coup, il y a toute la végétation qui commence à grimper dessus. Ça fait un peu un truc sympa là-dedans. Il y a peut-être des oiseaux qui vont commencer à nicher.
Bon, alors là, parmi les oiseaux, parce que toi, t'adores ça, t'en as coché je sais pas combien. Mais entre des mésanges, oui, tu comptes pas, t'as raison.
Ouais.
Pas la peine de faire un catalogue, forcément. Que t'as des ornithos, ils comptent. Hein.
Ça, tant que ça.
On appelle coché.
Il n'y a pas de dérangement. Mais... C'est vrai que moi, ça m'intéresse toujours de découvrir de nouvelles espèces, mais de là à les compter, non.
Alors, ce qui t'intéresse, c'est aussi la quête, c'est-à-dire la surprise que tu peux avoir.
C'est ça, ici, finalement, quand je viens ici, je suis jamais sûre de ce que je vais voir. Alors, des fois, je me vois même des espèces que j'avais jamais vues de ma vie. Ça, quand ça arrive, c'est surprenant et c'est plaisant. Puis même des espèces, par exemple, que je voyais depuis des années, que je revois maintenant. Enfin, on n'est jamais sûr de ce qu'on va voir, quoi. Et ça, c'est, je trouve que c'est super, quoi. C'est ça, tout l'inverse d'un zoo. Quand on va dans un zoo, d'une, les animaux, ils sont enfermés, et de deux, on est sûr de ce qu'on va voir, tu vois. Puis quand on va dans un zoo, on va découvrir des animaux, voilà, qui viennent de l'autre bout du monde, tout en oubliant qu'ici, il y a aussi une faune, une flore qui est riche, qui vaut le coup d'œil aussi, et en plus, elle n'est pas enfermée, alors c'est ça qui est le mieux, quoi.
Alors là, avec Victor, on a quitté donc ton jardin, on a pris donc des sentes, on a pris des chemins, on a vu donc des jardins à la fois délaissés, on a des jardins ouvriers, on a un peu de potager, on a tout ça. Là, on est vraiment à la lisière de ta forêt, hein, là.
Ouais, là, on est encore dans les friches, mais un peu plus haut, il y a la forêt. Bien avant, tout le coteau, c'était des vignes, en fait. Après, ça a laissé place à ces cultures, et maintenant, ça a relaissé place à la nature. Et puis là, on a une belle vue sur un vieux crassier.
Eh oui, donc, parce qu'on est quand même au cœur de la sidérurgie.
Qui, maintenant, a laissé place à une piste de ski indoor, voilà, où on peut skier même en été. Donc,
c'est votre station de ski, ça.
Voilà, c'est la gouffre énergétique locale. Ouais, voilà.
Oui. C'est ça. Oh là, c'est bien. Un petit banc.
Un petit banc.
Un petit banc avec des petits rondeurs.
Je me suis dit, tiens, j'aime bien ici. Allez. Je vais construire un banc. Voilà.
Wow, pas mal.
Je vais construire un banc.
Et si on parle des paysages ici, donc on est sur une belle rotondité.
On est juste devant les côtes de Moselle, ouais. Il y a les côtes de Moselle juste derrière. Puis là, on est, on va dire, entre la ville et les côtes de Moselle. Donc voilà, les anciens coteaux de vignobles. Et du coup, bah, plus haut, ça laisse place à une forêt qui est plus ancienne avec là, par contre, des gros arbres, des gros hêtres. Puis la tour de Drins, là, juste devant, la tour de Drins, avec une vue. On voit Verdun, même, des fois, on voit le Luxembourg.
Oui, parce qu'on n'est pas loin, hein, le pays des trois frontières, c'est
oui,
derrière.
Oui, c'est pas loin, ouais, oui, oui. Ouais. Il y a Sierre-Clébin, là-bas.
Alors là, nous avons la petite rincée. Et on, voilà. En fait, on a très peu de gouttes, nous.
Oui, on est sous les arbres, là. C'est dense. Il y a des moustiques, un peu.
On a une petite cabane naturelle.
Là, une grosse, belle coulée de sanglier.
Oui, bien sûr. On peut voir des petites papates.
Elle est un peu éphémère, parce que c'est le temps des cerises.
Ils savent, hein, ils connaissent.
Oui.
Ouais. Pas besoin de leur dire. Ça va.
Quand elles tombent, elles sont...
Tiens, petite prune. Une petite pêche. Là, on repart. Dans ce qu'on appellerait, tu vois, l'être humain, il dit que c'est un fouillis, mais en fait, non. C'est très organisé, la nature, elle se débrouille. Ah,
les friches sont très négligées, même par certains, pas naturalistes, mais on va dire que les friches, on dit, oh, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de... Mais il y a quand même une grande diversité d'espèces dans les friches. On y voit des tas de choses. Et puis souvent, on se concentre que sur les espèces d'oiseaux, sur les filles, mais pas forcément sur la diversité de champignons, la diversité de... Et ça, ça aussi...
Toi, ce que t'aimes, c'est la globalité, quand même.
C'est ça. Ce qui m'impressionne surtout, c'est ce fonctionnement. Parce que si ces espèces-là étaient dissociées les unes des autres, elles tiendraient pas longtemps. Hein. Donc c'est vraiment
ce qui nous renvoie à la notion de solidarité quand même. Hein.
C'est ça, la nature, souvent quand on voit les documentaires animaliers, quand on parle de la nature, on dit, tiens, c'est la compétition entre les espèces, la survie, etc., les espèces luttent contre les autres. Donc oui, il y a forcément ça, il y a la prédation, il y a la concurrence. Mais finalement, si les espèces n'auraient pas coévolué les unes avec les autres, elles ont été contraintes de coévoluer avec les autres, et donc elles ont développé des symbioses, elles fonctionnent les unes avec les autres. Et donc, dire que la nature, c'est que de la compétition, que de la prédation, c'est faux.
Est-ce que l'homme, Victor, serait capable un jour de résister à sa propre puissance, à sa propre volonté de domination? Parce qu'on a l'impression qu'il a lancé des trucs et qu'après, la machine s'est emballée.
Je ne sais pas trop, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a les clés en main pour justement avoir un confort maximum, une fois qu'on a les clés en main pour aller sur Mars, pour aller sur la Lune, etc., c'est quand même compliqué de ne pas le faire, quoi. Mais je trouve que ce qu'il y a quand même de très profond et de très moral, si je puis dire, c'est le fait de dire, même si on a ses clés en main, on va tout simplement dire non, c'est bon, on va se recentrer sur des choses concrètes, la résilience alimentaire, etc. Finalement, se tourner plus vers le vivant, comment fonctionne ce vivant qui nous entoure, et peut-être se recentrer sur des valeurs peut-être plus simples, plus concrètes, qui sont pas forcément plus contraignantes, mais qui me tiennent à cœur. Et du coup, bah, ça, pour moi, ça serait quelque chose d'extraordinaire, de dire que même si on a les clés en main pour faire des choses pas possibles, qui nous conviendraient, se dire, bah, ces choses-là détruisent le monde vivant actuel, et ben, bah, on va se dire, bah, tiens, on ne les fait pas. Et ça, finalement, je pense que c'est possible. D'une, parce qu'il y a des gens qui se le disent. On regarde, par exemple, les sociétés amérindiennes. Ils avaient cette notion de respect du vivant, ils avaient ce... Et pourtant, voilà, c'est venu comme ça, et pourquoi nous, on pourrait pas, comme ça, acquérir ces valeurs-là? Pour moi, c'est quelque chose de... On doit se recentrer vers là. Mais c'est vrai que c'est compliqué, une fois qu'on a les clés en main pour cette technologie, cette croissance-là, de se freiner un peu, c'est vrai que ça reste compliqué.
Il faut arriver, en fait, à créer, comme on dit, un nouvel imaginaire, quoi, à décoloniser les esprits, parce que les êtres humains, ils te disent, ok, je veux bien abandonner ça, mais qu'est-ce que tu me donnes à la place, quoi? Quel bien-être tu me donnes?
Oui, c'est ça aussi, mais je pense que le fait de se rapprocher de la nature, de se reconcentrer à la nature, alors forcément, pour ceux qui habitent en ville, que je dis ça, c'est peut-être pas très sympa, mais même dans les villes, on peut développer des choses, pourquoi on peut intégrer des arbres. Moi, personnellement, avoir une vie où j'ai un peu moins de confort, où j'aurais, admettant, pas de smartphone, moins d'électricité. Si à côté de ça, j'ai la nature et j'ai ce truc dans ma tête qui me dit, bah tiens, je vis comme ça, mais j'ai beaucoup moins d'impact et je comprends comment on pousse une tomate, comment... Et ben finalement, moi, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Hein.
Belle vision, hein, donc du monde présent et du monde à venir avec une belle maturité. On n'a pas fini. Ah ben non, il a encore des choses à dire. Puis on était dans le jardin, on va rentrer dans son bois. Après qui? Norah Jones. Choisi par Thierry Dupin, c'était donc Norah Jones, blessée d'être seule.
Maman, je crois que Mimi a fait une bêtise.
CO2, mon amour.
Qu'est-ce que tu manges?
Ça, bon poisson.
Beaucoup bon goût.
Et où est-ce que t'étais chercher ça?
Réserve maison.
Avec Denis Chessou.
Maman, il a pété les poissons, papa.
Mon Dieu! Les poissons de Richard.
Hé, hey, ta fille, le bobel. Il a pété les poissons de l'aquarium, ma papa.
Sur France Inter.
Oui, alors je pense pas que ce soit exactement la même ambiance, vous voyez, chez dans la famille Noël avec Victor. On doit manger des choses un tout petit peu différentes, mais pas forcément le poisson de l'aquarium, enfin que sais-je. Donc nous poursuivons ce voyage avec Victor Noël, donc toujours avec notre adolescent, certes atypique, mais donc intéressant. Donc nous sommes toujours chez lui à Rombas, en Moselle. Allez, on continue le voyage.
On baisse la tête là, ouais. Voilà, on passe. Hop là.
Les fameux champignons.
Allez, voilà. C'est un joli cercle, comme on dit.
Ouais, bah quand ils suivent les racines.
Cercle de feu merveilleux de champignons.
C'est ça.
Bon, tu me parais effectivement plus qu'au point, mais ça, nos amis qui t'écoutent l'ont compris. On est pâtés, hein. Bon, si vous l'êtes, vous, moi, je suis absolument épaté. Je me dis, si tous les jeunes de 15 ans sont comme Victor, alors là, on est sauvés. Qu'est-ce que tu dis, toi, d'ailleurs, à tes copines et tes copains? Parce que comment ça se passe? Parce que ouais, t'entends, tu leur racontes des choses, non?
Moi, je suis scolarisée à la maison, donc du coup, comme je suis pas au collège ou au lycée,
oui,
je côtoie moins de jeunes, forcément.
Ouais.
Après, ceux que je côtoie, on va dire que l'écologie intéresse, mais que c'est pas non plus le sujet qui est au cœur des débats, au cœur des inquiétudes. Souvent, on dit, tiens, les jeunes vont sauver le monde. Les jeunes, ils vont en aucun cas sauver le monde, quoi. C'est un combat intergénérationnel. Puis, finalement, il faut pas non plus le cacher, les jeunes, ils sont pas au pouvoir, c'est pas eux qui prennent les décisions. Mais ils peuvent quand même sensibiliser autour d'eux, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est pas les jeunes qui vont sauver le monde, c'est tout le monde qui doit faire en sorte de faire quelque chose de sympa et préparer la résilience alimentaire, de préparer une nouvelle société. C'est tout le monde qui doit faire ça.
On va être sur la lisière, ce qu'on appelle l'écotone.
Voilà, ça c'est une coulée laissée par les sangliers, les chevreuils. Dans cette forêt-là, il n'y a pas de cerf. C'est possible qu'avec la dispersion, les cerfs se dispersent quand même. Il y en aurait peut-être à un moment donné, mais il faut voir comment les forestiers ou quoi les accueilleront.
Ouais. Avec le fusil. Hein.
C'est ça. Avec une vision particulière de la forêt.
C'est ça.
Là, ici, c'est une deux voies.
Oui, c'est une de voies pour sanglier.
Ah, c'est ça. On va avoir des pots de blaireau.
Oui.
Alors là, je crois pas qu'ils sont actifs, mais.
Alors, le blaireau.
Le blaireau.
Qui
aussi,
se boulotte
pareil,
du hérisson. Il adore le hérisson, lui. Ça lui fait pas peur,
oui,
ça.
Ouais, beaucoup de choses aussi.
Bah oui, bien sûr.
Le régime alimentaire aussi, très large.
Prends tout, lui. Très
ouais,
beau.
Donc là, on a les friches.
Ouais.
On a la prairie. Et juste là, bientôt, si on revient sur le chemin, on a la forêt. Un petit truc qu'on voit pas habituellement de la nature.
Ah.
Un gîte à chauve-souris.
Allez, c'est bien pas du ça, tout pour les oiseaux parce qu'ils se débrouillent, mais là c'est bien un gîte à chauve-souris avec une entrée dessous.
Voilà, on va avoir une...
Qui sont vraiment des auxiliaires du jardinier.
On va avoir
des...
une chouette vue là.
Ouais, que c'est bien, dis donc.
Ah, si on monte encore un peu.
Non, bah attends là. Attends, moi je. C'est pas que je vais pas monter, mais je trouve que c'est très, très beau là, je me pose.
Ah ouais. Après on pourra redescendre par le chemin là.
Même grimpons sec, tel le dahu de base. Elle tombe pas là.
Voilà.
Et une branche. C'est bien, t'as ton petit treillis.
Il y a l'araignée là, qui est un peu inquiète. Là. Voilà. Elle
ça
a
va.
Fait un beau petit toile là.
Ah, c'est extraordinaire, elle peut ramasser tout ce qu'elle veut.
Ouais.
Là, sa nourriture.
Et s'abriter dans ce. Ah, j'en vois une dedans d'ailleurs.
Ça y est,
un peu une ingénieure. Quelque sorte.
Vous êtes qui? Une araignée, ingénieur de la nature. Et je fais des toiles extrêmement solides, plus que l'acier,
je crois,
paraît-il.
Que proportionnellement,
ouais.
C'est la solidité du métal pour nous, je crois.
C'est ça, de l'acier.
Ouais.
La petite cocotte. Ah, on va rien y faire parce qu'il y a le coq là qui nous surveille. Mais...
Il est costaud le coq là.
Ah, balèze, hein.
Il est beau. Hein.
Ouais. Ah oui, moi aussi je peux faire la poule. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Comment c'est toi?
Ça va?
C'est un moment que t'as vu.
Ça va
et toi?
Bon, il va bien. Je peux vous dire qu'il va bien, le Victor.
C'est bien, jeune, c'est pour ça qu'il va bien.
Jeune et puis il parle bien de nature aussi.
Ah oui, ah, oui ça intéresse à la nature.
Ah oui.
C'est bah, bien.
Vous aussi d'ailleurs.
Ah oui, bah, oui voilà, je vais voir les bêtes maintenant.
Vous allez voir les bêtes?
Ah oui.
Pas pour ça. Allez, bonne suite. Hop là, retour au jardin.
Retour au jardin.
Avant de se sauver. Alors là, je me tourne vers maman, donc vers Sandra, la maman de Victor. Ça a commencé quand ce déclic? Tout petit, là, sur la nature?
Oui, tout petit. Les premiers souvenirs, c'est quand il avait 3 ans, en fait. Quand il a découvert un peu ce jardin-là, avec les insectes. En fait, il voulait protéger, en fait, ce qui rampait, les araignées, les fourmis, tout ça. Et puis après, la passion des oiseaux, de tout ça. Mais oui, c'est venu de lui-même, comme ça. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait un milieu, voilà.
Il y avait un milieu, et qu'il l'a exploré tout seul, dans le jardin, tout petit. Il allait dehors, il regardait les fourmis, les observait, etc. Et puis, par ma chance, il nous voyait écraser une araignée, parce que moi, j'avais vraiment très, très peur des araignées ou des fourmis. Bon, bah là, c'était c'était la grosse colère en fait.
Comment ne pas piétiner, on va dire, la nature symboliquement et physiquement quoi.
Oui, oui, on a plein d'anecdotes familiales comme ça, quoi. Le rouge-queue qui niche sur la terrasse et oulala, on n'a plus le droit d'aller manger sur la terrasse, ou alors le rouge-queue qui a niché près du fil à linge et on n'a plus le droit d'aller mettre le linge près du fil à linge pour pas déranger le rouge-queue. Oui. C'est que des anecdotes comme ça et qui passent plus ou moins bien dans, quand on est de bonne humeur ou pas.
Victor, observation de la nature, ne pas la détruire. Puis il y a aussi vraiment l'engagement réel, c'est-à-dire que les manifestations, tu connais, tu essaies de réunir du monde, tu participes. Ça avait commencé à Lyon d'ailleurs quand tu étais petit.
Ah oui, la manif contre les tirs de loups, oui. C'était avec les associations de protection de la nature, c'était une manifestation à Lyon contre les tirs de loups. Et alors c'est vrai qu'on voit, mine de rien, on voit pas souvent les associations de protection de la nature manifester. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de manifestations pour le climat. C'est pour ça que quand j'ai organisé la marche pour la biodiversité, ça me tenait à cœur de faire manifester et les naturalistes et les écolos, comme voilà, différents milieux, quoi. Donc c'est très important les manifestations parce que si on est nombreux aussi, ça peut avoir un certain poids, même par exemple à des niveaux locaux, avec des préfets ou des choses comme ça. Ça montre ce qu'on veut, mais ça doit en aucun cas être une fin. Il faut que ça s'accompagne d'autres changements de comportement, etc.
Ah, alors là, le toit végétalisé.
Ah oui, donc ça c'est une cabane de jardin.
Ouais.
Au départ, c'était voilà, quand j'étais plus petit, j'allais jouer dedans. Puis après, du coup, quand on a été faire le petit tour d'Europe, quand on a été en Norvège, il y avait plein de toits végétalisés. Alors on a dit, tiens, on va faire un toit végétalisé. Donc on a fait un toit végétalisé. Et puis après, ça s'est transformé en affût. On a fait des trous dedans pour pouvoir observer les oiseaux à la mangeoire l'hiver.
Ouais, mais là, tu fais venir encore de la nature.
Ouais.
Tu as ton abri. Tu es tranquille l'été, ça te fait une isolation naturelle.
C'est ça,
pas mal.
Voilà.
Et là, on a la mare, voilà,
là,
que
la
tu as creusé avec papa, peut-être.
Voilà, avec papa, ouais. Donc on avait creusé une petite mare il y a un petit bout de temps, il y a longtemps. Enfin, longtemps,
je
suis jeune. Mais voilà, longtemps pour moi, c'est pas longtemps pour vous. Enfin, bref.
Ouais, je comprends bien.
Mais puis là, il y a 2 ans, on a creusé une autre mare un peu plus grande et du coup, il y a des amphibiens qui sont installés. Il y a la grenouille qu'on appelle Francis, un mâle qui est venu. Puis à la reproduction de crapauds communs, il y a des larves de salamandre.
Francis ?
Espèce protégée, donc on n'a plus le droit de toucher à la mare, on n'a plus le droit de rien faire dedans.
Donc dès que je vois un Francis, il est protégé, quoi, maintenant.
Voilà.
Victor, petit truc quand même, tu vas essayer peut-être de déceler une ou deux pierres, tu vois, des deux côtés du mur, bah oui, pour faire une espèce de corridor, une petite trame verte pour les...
Ah bah c'est ce que, oui, c'est
hein,
je,
c'est
j'y pense d'ailleurs, des fois je vais sur Google Earth, Google Maps, puis je regarde les jardins et je me dis, tiens, le voisin là, il devrait casser le mur à cet endroit-là, le voisin là...
Non, mais tu ne redis pas casser le mur, il faut que tu le valorises, tu comprends, faut que ce soit positif.
Oui, non, mais il faut, comme les chasseurs, il faut prélever la pierre.
Oui, voilà, si tu veux.
Alors, moi, ça fait
non,
un mois.
Par exemple, on a une porte au fond du jardin et ouais, bah ça, c'est ce que tu as dit.
Ça fait un mois qui me demande de faire un trou dans la porte du jardin pour pouvoir justement faire éventuellement permettre le passage de hérissons ou de batraciens.
Bon, si papa le fait pas, moi je viens avec toi.
Bah, les amphibiens, ils arrivent à passer sous la porte, mais c'est vrai qu'avec les murs comme ça, les hérissons ne peuvent pas passer.
Non, mais à mon avis, on envoie le voisin très gentiment. Tu lui expliques, est-ce qu'on peut partir juste une pierre parce que ça va pas faire écrouler le jardin.
Ça va pas faire écrouler le mur.
Tandis que là, je suis un peu coincé.
Trame verte, ça existe toujours à grande échelle, mais c'est vrai que là, avec toutes les routes, les voies ferrées, les lignes TGV...
Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Plein de choses ?
Ah, plein de choses, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Non, à moi, on pourrait me souhaiter, mais par contre, aux vivants, on peut souhaiter beaucoup de choses.
Donc on va dire, on va le souhaiter aux vivants et à toi dedans, quoi.
Ouais.
Et je rêve d'un monde où ? Trois petits points,
voilà,
quand même.
Je rêve d'un monde où... un monde où le respect du vivant passe avant beaucoup de choses qui sont non vitales pour nous, qui sont des choses un peu pas futiles, mais qui voilà, où le respect du vivant prime avant la croissance, cet aspect de gestion, de domination du vivant. Ça, c'est le monde dont je rêve.
À bientôt, Victor.
À bientôt, Denis. Merci beaucoup.
Ouais, quand j'avais tourné, il avait 15 ans, un an de plus. En tout cas, il est pas mal du tout, ce jeune. Hein. Ça s'appelle L'Avenir. Et avant de se quitter, allez, Mac Miller.
When will we die? This life isn't fair. I miss the high. I live a lie, and one day we'll die. No one will care.
Yeah, mais lui, il le dit plusieurs fois. C'était Mac Miller sur France Inter. Que ça sent la fin, mais oui, absolument. Merci à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a réalisé cette émission, la programmation musicale de Thierry Dupin et Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites de CO2, Mon Amour. La semaine prochaine, après Noël, bah, vous serez là, bah, bien sûr. Et bah, là, on va se retrouver sous un ciel d'hiver. On va un peu fêter l'hiver avec, bah oui, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui est Jean-Marie Pelt. Et puis aussi, on parlera des animaux en hiver avec Christian Couloumi. Voilà, donc ça va être ode à l'hiver, en quelque sorte, avec un côté, je crois, un petit pas de côté, en tout cas assez joli. On se retrouve sur Twitter et sur Instagram, ça c'est possible, et puis les podcasts, vous en avez l'habitude, sans oublier d'ailleurs aussi les podcasts de Bestioles. Ouais, ça intéressera vos enfants.